Donc, parlons de sport. Comme les interventions que nous avons entendues tout au long de la journée l'auront démontré, Internet et les médias sociaux occupent dorénavant une place importante, non seulement dans nos vies, mais également dans nos récits. Et je voudrais ajouter à la liste des œuvres présentées jusqu'à présent trois exemples, soit respectivement le roman de Jean-Philippe Barry-Guerrard, Sport et divertissement, le recueil de poésie Dimanche de Jérôme Barry, tous deux publiés aux éditions de ta mère, que j'ai choisi non seulement parce que je fais partie de la famille, mais aussi pour me permettre la petite blague un peu cabochonne de mon titre. Et la performance installation Anamnèse de Fabrice Masson-Goulet, sur laquelle je m'arrêterai plus longuement. Parlant en 2014, Sport et divertissement met en scène une narratrice jeune et actrice de son métier, à qui tout semble réussir en apparence, mais dont les comportements moraux répréhensibles, la vision du monde acidulée et la consommation excessive de drogue et d'alcool témoignent d'un vide intérieur qu'elle ne parvient pas à combler. Le premier extrait du roman démontre une de ses stratégies afin de combattre l'ennui. Je regarde mon téléphone du coin de l'œil, je lis d'une nouvelle en diagonale, je regarde chez des messages, je rafraîchis, je regarde des photos, je regarde chez des messages, je rafraîchis, je reviens une nouvelle, je regarde chez des messages, je rafraîchis. L'action répétée de rafraîchir sa connexion peut autant s'entendre comme la commande informatique d'actualiser le contenu qui s'offre à elle que comme sa volonté d'obtenir des nouvelles fraîches, susceptibles d'égayer son quotidien ou de lui procurer des sensations quelconques, ce qui ne semble pas être le cas puisqu'elle recommence son geste avec une insistance qui trahit sa morosité. Vers la fin du livre, la narratrice et ses deux amis, également comédiens, se rendent dans la forêt pour une séance de chasse. Il se produit alors quelque chose qui, apparemment, est peu fréquent dans la réalité des chasseurs, c'est-à-dire qu'ils voient une bête et réussissent à l'abattre. Voulant partager leur triomphe contre une créature sans défense à leur entourage, ils utilisent le retardateur du téléphone intelligent d'un des personnages afin de prendre une photo qui devient donc tout sauf spontanée. La pose classique, la chasseresse qui tient la tête du bec d'une main pour que ses yeux pointent vers la caméra comme s'il posait avec elle. Le couteau de chasse encore fumant descend dans son autre main détendue. Son premier compagnon, debout derrière, qui tient la carabine par le canon. Les feuilles, les troncs, les branches autour, incolores, qui font au gris, dans les nuages, la brume. Le deuxième, le plus gros des deux, un genou posé par terre, sa main sur la fesse de l'animal. La première chose qui frapperait le regard sur cette photo est l'expression des chasseurs. Un regard perçant mais désincarné, saturnier, à mi-chemin entre la désinvolture, la mélancolie et le désir de séduire. Le regard de ceux qui veulent à tout prix vous montrer qu'ils en ont rien à foutre de la mort de ce cerf, comme du reste, parce que plus rien ne les impressionne depuis presque toujours. Cette écrasée se frappe par la présentation de photos très construites, dont la composition visuelle se veut conforme aux standards esthétiques importés de la peinture de la Renaissance, mais adaptée à l'ère Instagram, et qui, pour ce qui est de la performance de ces sujets, pensée en fonction de représentations orientées vers une certaine coolitude. En résulte un cliché d'hypocrisie, investi d'un effort conséquent de mise en image qui cherche paradoxalement à résulter en attitude naturellement désaffectée. Dans le recueil de poésie Dimanche de Jérôme Barry, le narrateur relate l'ennuyeuse journée de clôture de sa semaine. Il prend d'abord le temps de décrire la pluie qui s'abat en insistant par répétition pour dépeindre sa monotonie. La répétition des trois mêmes mots forme un bloc visuel, sorte du contexte syncrétique, qui frappe le regard par sa monotonie. Devant ce texte sans grand intérêt, le lectorat peut avoir comme réflexe de faire passer l'axe de sa lecture de l'horizontale à la verticale, reproduisant le mouvement répété des gouttes qui s'abattent. Hormis cette trouvaille formelle, force est de constater que la lecture de cette page est ennuyeuse comme la pluie. Quelques pages plus loin, le narrateur passe un moment à l'ordinateur à consulter son fil d'actualité Facebook. Il énumère quelques éléments de l'interface. L'absence de personnification dans sa description de son expérience de consultation du site a comme but de restituer le caractère itératif de ce qu'on peut y trouver. Suis le flux des noms, des réflexions des images, des gens que tu connais et que tu ne connais pas, mais qui ont beaucoup à dire. Puis, après une brève ekphrasis d'une publication en particulier, dans un carré blanc, il y a le ciel rouge, vert et bleu et des nuages confondants de beauté. Barry reprend la formulation répétitive employée quelques pages plus tôt pour réifier la pluie. L'irrégularité du bloc visuel génère une lecture qui accommode moins une traversée verticale. C'est une manière de souligner que, contrairement aux gouttes, la déferlante de photos qu'on peut voir sur Facebook, ou plus vraisemblablement sur Instagram, est composée d'éléments individuels plus distincts que les gouttes d'eau d'une ondée. Or, comme le souligne la dernière ligne du paragraphe, il s'est graduellement mis en place sur les médias sociaux une esthétique photographique qui a fait converger les images au point de les confondre, ou, à tout le moins, de les rapprocher suffisamment pour qu'elles ne se distinguent plus avec un grand éclat, ce qui génère donc de l'ennui. Les exemples convoqués des livres de Barry-Guerrard et de Barry démontrent deux stratégies formelles d'utilisation des médias sociaux afin de démontrer, chez Barry-Guerrard, le caractère construit, factice et racoleur des photographies que choisit de publier un personnage qui, ce faisant, démontre sa conscience des codes et pratiques iconographiques employées en ligne et son habileté à les employer, tandis que chez Barry, c'est la lassitude et un certain vertige face au flux de publications qui est représenté. Dans ces deux cas, la publication des médias sociaux sont employés comme un motif qui est réifié et critiqué à certains égards, mais son insertion dans le récit, de par la resémiotisation qui les fait passer d'une interface numérique à des signes linguistiques, absorbe ses caractéristiques visuelles dans un autre média. En faisant pénétrer Facebook dans le terrain de la littérature, on l'ampute de certaines de ses particularités, notamment sa dimension iconotextuelle qui fait cohabiter signes textuels et signes graphiques, ainsi que sa dimension collaborative par laquelle une publication donne souvent lieu à une conversation et des échanges nourris. Passons maintenant à la présentation de troisième démarche, plastique et littéraire. Je devrais peut-être défendre l'inclusion de cette œuvre dans le champ littéraire, mais je suis prêt à le faire. Cette œuvre emploie Facebook non pas comme un motif, mais plutôt comme un matériau de création, ou plutôt de recréation, voire d'incréation. Je vais donc aborder le travail de Fabrice Masson-Goulet, qui s'est défini lui-même sur son profil Facebook d'artiste comme un artiste incomplet. Une référence autant à son statut financièrement et professionnellement précaire, et une blague pour initier en voyant à l'époque où à la présence d'un nombre maximal de 5000 amis sur Facebook contraignait certaines personnalités publiques à ajouter complet à leur nom afin de refuser à l'avance les demandes d'amitié virtuelle. Fabrice utilise parfois Facebook pour solliciter des contributions d'autrui dans le cadre de ses projets et publie de la poésie, notamment sa suite L'autoconservation sur Instagram. En ce sens, sa démarche est résolument celle de l'écran 20, définie par Gilles Bonnet comme suit. L'auteur qui ne se contentera pas d'une représentation d'une médiation de soi grâce aux technologies numériques, mais qui les investira comme un véritable environnement doté de ses contraintes et potentialités spécifiques. Avant de passer à la description et l'analyse de son œuvre Anamnèse, il est important de préciser que Masson-Goulet se réclame du travail de Kenneth Goldsmith, donc Rachel nous a brièvement présenté qu'on voit ici assis au milieu d'une partie de son œuvre Painting the Internet. Donc un poète américain polémique, notamment connu et reconnu pour sa pratique du uncreative writing, et comme Rachel l'a souligné, la traduction de cet essai en français est un peu choquante, moi un titre comme Écriture sans écriture. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vais simplement vous dire que je vais appeler ça de l'écriture incréative, pour des raisons que j'élaborerai pas. Donc là, je vais offrir des citations différentes de celles de Rachel et que je vais citer intégralement pour des raisons qui sont assez évidentes. Je vais le faire en anglais. It's been a while, so bear with me. In 1969, the world, when conceptual artist Douglas Hubler wrote, "The world is full of objects, more or less interesting. I do not wish to add any more." I've come to embrace Hubler's idea, though it might be retooled as "The world is full of texts, more or less interesting. I do not wish to add any more." It seems an appropriate response to a new condition in writing today. Faced with an unprecedented amount of available text, the problem is not needing to write more of it. Instead, we must learn to negotiate the vast quantity that exists. The previous forms of borrowing in literature, collage, and pastiche, taking a word from here, a sentence from there, were partially developed based on the amount of labor involved. Having to manually retype or hand copy an entire book on a typewriter is one thing. Cutting and pasting an entire book with three keystrokes, select all, copy, paste, is another. Having moved from the traditional position of being solely generative entities to information managers with organizational capacities, writers are potentially poised to assume the tasks once thought to belong only to programmers, database miners, and librarians, thus blurring the distinction between archivists, writers, producers, and consumers. In uncreative writing, new meaning is created by repurposing pre-existing texts. Et il faut que je sorte les citations. C'est intéressant, donc, dans la perspective du uncreative writing, de penser que quand les archives dans lesquelles on puisse, c'est Internet, ben, on dit souvent que the Internet is forever. Ça l'est d'autant plus qu'on peut avoir accès à même des pages qui sont disparues par le biais du Wayback Machine qu'on peut trouver à l'adresse archive.org. Le travail de Fabrice dans le cadre de son œuvre Anamnèse a puisé dans une archive qui est tout à la fois personnelle, puisque public et partiellement collaboratif, puisque son matériau de création était exclusivement puisé de son profil Facebook. Produire un résultat intéressant à partir de ce point de départ n'est pas un mince exploit, dans la mesure où Geert Loving déclarait en 2016 que « We'd need an next to impossible alien perspective to regain the wonder of a Facebook page. We want these artists struggling with social clay, but in the end, it's going to be bloody hard to produce something meaningful and sustainable with that material. » C'est à quoi Masson-Goulet est parvenu grâce à une démarche tenant de la réappropriation, de la réécriture, de l'égo-archivage et du droit à l'oubli dans une forme que j'aimerais appeler du uncreative self-writing. Dans le cadre d'Anamnèse, Fabrice a occupé une galerie montréalaise pendant 6 jours à raison de 12 heures par jour et s'occupait à inlassablement transcrire certains statuts Facebook qu'il a mis en ligne depuis la création de son compte en 2007, ainsi que les commentaires de ses amis. Après avoir terminé la retranscription d'un statut, il l'effaçait définitivement de son profil. Comme il me l'a expliqué, plutôt que de procéder de manière chronologique, il a préféré adopter pour un va-et-vient, retourner dans le passé, reprendre contact avec la publication, ce qu'elle évoquait, ce qu'elle évoque en la lisant, le retranscrire et puis l'effacer. Ce retour dans les archives de ces publications Facebook est antinomique de la pratique usuelle des médias sociaux, puisque, comme l'explique Alexandre Coutant, pour l'individu souhaitant exister sur ces réseaux, il faut renouveler sans cesse sa participation, quitte à accorder peu d'attention aux traces passées. Cette façon, un volet de sa pratique dans l'analyse visait à répondre à la question soulevée par Giselle Begelman. What memories are we building on networks, where the more immediate present seems to be our essential time? En ce sens, l'analyse constitue un acte de résistance face aux médias sociaux. En effet, Arnaud Regnault explique que le nouveau régime de temporalité offert par la diffusion du flux en temps réel emprisonne paradoxalement l'utilisateur dans un présent sans mémoire qui n'autorise pas une vision synoptique de l'ensemble des données archivées. Au contraire, il n'est possible d'y accéder que par échantillonnage. Bogelman aborde également dans ce sens lorsqu'elle affirme ceci « Networks have no time. A system of permanent urgency prevails over them. The most recent publication is supposedly more relevant than the previous one. Now is what counts. And this now has an increasingly intensity. Trying to find that very important comment posted on your by your friend 30 days ago on your Facebook, that photo you liked in some remote day of 2012, or that remarkable event in which you shared a video back in 2008. Don't even try it. You won't find them. C'est qui comme elle a fait observer quelque chose de paradoxal, puisque it is common to say that the internet never forgets, but the digital culture does not allow us to remember. Je dois amender l'affirmation de Bigelman en indiquant que Facebook a mis en place un moteur de recherche interne qui permet plus ou moins aisément d'aller retrouver des publications passées. Or, en dépit de la disponibilité de cet outil, force est de constater que l'utilisation plus usuelle de Facebook consiste à consulter ce qui a été publié au cours des dernières heures, voire des dernières minutes. En fait, le travail de mémoire n'est pas découragé par les médias sociaux. Pensons par exemple à la fonction de Facebook On This Day, qui va introduite le 24 mars 2015, mais qui va faire monter à la surface des publications qui ne sont pas forcément significatives pour soi, mais vraiment en fonction d'un calcul d'algorithme et de popularité. L'approche à visée systématique au cœur de la performance de Masson-Goulet se rige donc contre cette logique de la publication continue, qui progresse irrémédiablement vers l'avant en ajoutant toujours plus de contenu, et s'appuie plutôt sur ce qui est disponible dans la mémoire externalisée que constitue sa page Facebook, afin de se ressaisir de son historique de publication tout en se dessaisissant du flux informationnel qui est injecté continuellement par ses usagers. La reprise de publication en Fabrice a constitué une sorte de récit de soi à partir de ses traces autobiographiques sur son numérique et de les constituer en sorte de cartographie narrative, concept introduit par Stephen Mamber pour désigner « an attempt to represent visually events which unfold over time ». This would be mapping rather than just presenting a picture because space, time and perhaps other components of the events would be accounted for. A visual information space is constructed that provides a formulation of complex activities. Sur les plans plastiques et iconiques, la reproduction des publications Facebook a contraint Masson-Goulet à réorganiser les informations visuelles se trouvant sur et surtout sous ses publications, certaines de celles-ci ayant généré de nombreux commentaires et débats. Étant un poète, un littéraire, ses amis littéraires ont l'habitude d'énormément commenter et on voit qu'il y a un travail de réorganisation assez complexe à faire. Le développement du discours collectif engendré par ces publications va amener Masson-Goulet à opacifier la manière dont se structure et s'organise visuellement les échanges sur les réseaux sociaux, puisque hormis lors de sa mise à jour, l'interface de ce site nous est si familière qu'elle nous est devenue transparente. Le travail d'analyse effectué par Masson-Goulet procède ainsi à un redéploiement des données de son fil Facebook, transposant l'esthétique antichronologique, linéaire et lisse affichée à l'écran sur un axe vertical dans une organisation visuelle fourmillante, brouillonne et horizontale, affichant sous un jour nouveau des données et dont les consultations en galerie lors de la performance forçaient une lecture plus attentive, renouvelant notre conscience tant de la forme que du contenu de ses publications. Le déploiement horizontal, par son rappel des fresques narratives que l'on a tapisserie de Bayeux, induit un mode de réception qui invite à la lecture plutôt qu'à la contemplation, déjouant ainsi les codes de sémiotisation suggérés par l'espace de la galerie. Or, si un analyse constitue bel et bien un refus du présent par l'exercice de mémoire auquel se livre l'artiste et auquel il conduit le public à assister, il y a aussi une démarche de l'ordre de la commémoration personnelle, entendue autant comme mémoire partagée que comme ode à la disparition. C'est qu'en plus d'un affichage par le redéploiement du passé de son activité Facebook sur une nouvelle surface, Masson-Goulet effaçait donc progressivement les statuts recopiés, supprimant des données et informations qui étaient de toute manière invisibilisées puisque ensevelies sous de nouvelles publications, mais rendu définitivement inaccessible au terme de la performance, consultable une dernière fois brièvement entre les murs de la galerie où s'est tenue la performance. Le caractère éphémère de la disponibilité de ce contenu ne s'arrêtait pas aux contraintes spatiales et temporelles de la performance. Le dispositif accentuait cet effet de fenêtre d'opportunité, puisque l'entassement de la surface papier engendré par la poursuite du travail de l'artiste en venait à soustraire au regard les premières publications redéployées sur son rouleau. Comme on peut le voir à la fin, c'était à peu près illisible. Si à terme, on peut voir dans ce geste un exercice du droit à l'oubli de la part de Masson Goulet, on invite le public à assister à cette disparition progressive. Ça confère un ensemble des allures de funérailles à ce sujet. Adorno disait d'ailleurs que museum and mausoleum are connected by more than phonetic association. They testify to the neutralization of culture. Fabrice nous convoquait à la disparition graduelle de sa présence numérique. Il donna à voir le spectre de son identité socio-numérique. Le choix du noir comme couleur d'arrière-plan de son œuvre, en contraste absolu du blanc favorisé par Facebook, renforce cette connotation funeste. Malgré son application, en 72 heures de travail pendant une semaine, Fabrice n'a pas atteint son objectif d'effacement complet. D'après ses estimations, il avait besoin de 6 mois de performance continue pour parvenir à s'effacer entièrement de Facebook. Le travail de mémoire évoqué par une des significations du site de sa performance a fait face à un obstacle de taille, à savoir la quantité impressionnante de données accumulées sur sa page Facebook depuis la création de son compte en 2007. Mentionnons également que dans le cadre d'un événement s'étant tenu cette fois à l'automne 2018, il a poursuivi sa performance. Il m'a été impossible, lors de ma consultation de l'œuvre il y a quelques semaines, de déceler la frontière matérielle entre les deux séances de travail, signe que l'artiste a atteint dans sa pratique une constance qui lui permet de simuler la continuité visuelle de l'interface de Facebook. Malgré la volonté de constance de son travail, ce qui frappe avec ça l'amnèse est le caractère faillible et humain de sa démarche, en opposition avec la publication automatisée, ordonnée et lisse, prise en charge par l'interface et le code de Facebook. Travaillant dans les limites de ses capacités de plasticien, Fabrice a néanmoins redéployé l'organisation relativement complexe des conversations engendrées par ses publications et a dû composer avec l'horizontalité de son support. Depuis la sélection personnelle de ses statuts, à laquelle il a ainsi conféré une sorte de préséance parmi tous ceux qui étaient disponibles, convient à une attention plus soutenue que celle qu'on accorde à la consultation de Facebook en temps normal, bien qu'à terme, la visée du projet était de retranscrire l'intégralité de ses publications. Je sens que le temps commence à filer, donc je vais abandonner mon texte. Pour vous mentionner que, des fois, le hasard fait bien les choses, j'avais déjà présenté le travail de Fabrice en septembre 2018, et quelques jours avant que je présente dans un colloque, je lisais The Atlantic pour me détendre, et le travail m'a rattrapé quand j'ai découvert que Anna Wiener, journaliste, a mis la main sur une fonctionnalité mise en place par Facebook qui permettait de télécharger l'ensemble de ses publications et les consulter, donc sans en passant par autre chose que l'interface de Facebook. Je ne pourrais pas rentrer dans ces citations, mais elle dit qu'en fait, elle constatait qu'elle ne voyait pas quelque chose comme un récit cohérent. Elle voyait surtout des données. Elle voyait en fait ce que la machine y décelait, c'est-à-dire une manière d'inviter les gens à partager des informations à leurs amis tout en nourrissant des algorithmes et des bases de données. Mais elle terminait en disant que, en fait, ça lui a aussi permis de retourner dans le passé et de voir l'espèce de naïveté que les usagers avaient au début, donc de revenir dans le passé et voir comment, c'est ça, de revisiter l'amitié qu'elle a eue avec ses amis à l'époque du college. Elle dit, donc, pour la première fois, grâce à cette application-là, je suis parvenu à l'espèce d'effet de connexion humaine que Facebook nous a toujours promis. Et je dirais, en fait, que je sais pas qu'est-ce que Fabrice a eu comme expérience d'anamnèse en faisant cette démarche-là de manière beaucoup plus appliquée et élaborée. Je sais par contre que, contrairement aux œuvres, aux extraits des romans et du recueil de poésie que j'ai lu, qui donc avait un discours critique, donc que j'ai pu vraiment aborder de manière plutôt herméneutique, quand je suis allé voir la performance de Fabrice, je suis tombé sur un statut où j'avais commenté. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que son analyse était partiellement la mienne. Et donc, là, il y a eu un effet des impressions, des émotions qui ont généré une lecture qui n'était pas, elle, herméneutique. Et je vais pas vous en parler plus avant. Je vais peut-être vous dire que c'est une des leçons que j'ai retenues de peut-être pas parler plus avant de certaines choses. Mais je pense que cette différence-là qu'on peut observer du fait que le travail de Fabrice, le récit que ça convoque par cette démarche-là peut appliquer, est différente parce que justement Fabrice a choisi d'utiliser les médias sociaux non pas comme un thème, comme on l'a vu plutôt jusqu'à présent, mais vraiment plutôt comme une substance pour sa pratique d'incréation. Merci.